Europe 1. 15h, 16h sur Europe 1.
Il est difficile de savoir ce qu'on est.
À cette hauteur, il est trop seul pour pouvoir se confier.
Historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Tu me parles le cœur, hein? Oh, alors César. À César, tu me parles le cœur.
Oh, voilà dans le mystère percé. C'est d'amour qu'il s'agit.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue comme chaque jour à 15h et pendant une heure. Je vous invite à découvrir sur Europe 1 la véritable histoire d'un personnage, homme ou femme, qui a marqué l'histoire, qui l'a changé aussi parfois en passant sous les radars. Des personnages mais aussi des lieux où l'histoire s'est jouée, ou des événements marquants et que j'ai choisi de vous raconter. Cet après-midi, je vous raconte non pas une mais deux vies, deux trop courts destins liés à tout jamais. Celui de John Kennedy, le fils de JFK, et de celle qui aurait été sa belle-fille si le président n'avait pas été assassiné, Caroline Bessette. Ou la véritable histoire qui a très mal fini de Caroline et John, l'autre couple Kennedy. Qui était John Kennedy Jr., l'enfant chéri de l'Amérique et son épouse? Quel a été leur destin tragiquement romanesque? Les Kennedy se pensaient-ils maudits? Pour répondre à ces questions et bien d'autres encore, j'ai le plaisir d'accueillir une romancière qui raconte ce couple dans son dernier livre. Bonjour Stéphanie Dehors.
Bonjour Stéphane.
Chère Stéphanie, ce n'est pas la première fois que vous nous plongez dans l'histoire des Kennedy, Stéphanie Dehors, parce que en 2020, vous avez publié Jackie et Lee, dans lequel vous racontiez Jackie Kennedy et sa sœur, Lee Radziwill. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le destin de John Kennedy Jr. et de Caroline Bessette? Au fond, pourquoi ce livre?
Je suis fascinée par tous les Kennedy et je n'en ai pas fini avec eux. Je suis fascinée par le grand-père, par les frères et sœurs. Et Caroline et John, d'abord c'est ma génération. Je suis née en 65, Caroline est née en 66. J'ai été élevée avec des photos de John Kennedy, parce qu'en France on l'appelle John. Donc j'ai été élevée, voilà, j'ai grandi en même temps que ce garçon extraordinaire. Moi j'habitais en province et je voyais dans les journaux, Paris Match, etc., des photos complètement dingues. Et un jour arrive Caroline Bessette. Et Caroline Bessette, c'était totalement différent, c'était... Je sais pas, c'est une Olympienne, c'était incroyable. Et puis, qu'est-ce qui m'a fascinée? Ce qui m'a fascinée, c'est qu'il y a exactement 25 ans, le 16 juillet 99, je sais exactement où j'étais quand j'ai entendu la nouvelle de leur mort. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Le 16 juillet 99, mais c'est épouvantable, c'est quelque chose, c'est le mythe qui s'effondre.
Vous publiez donc Caroline et John aux éditions Albin Michel. On va continuer à en parler ensemble, Stéphanie Dehors, juste après mon récit.
Europe 1,
15h, 16h, historiquement vôtre.
Le récit, Stéphane Bern.
Nous sommes aux États-Unis le mardi 8 novembre 1960. La présidentielle américaine est serrée, mais elle finit par rendre son verdict. Le démocrate John Fitzgerald Kennedy l'emporte d'un souffle sur le républicain Richard Nixon. À 43 ans à peine, JFK s'apprête à devenir le 35e et plus jeune président de l'histoire américaine. Mais le système américain étant ce qu'il est, la passation de pouvoir n'est prévue que 3 mois plus tard, en janvier 1961. Pour le président élu, la pause est salutaire. Si JFK est fatigué, c'est la rançon des mois passés à sillonner les différents états du pays pour mener campagne, il s'apprête aussi à être père pour la deuxième fois. Après sa fille Caroline, sa femme Jackie donne naissance le 25 novembre 1960 à un nouveau-né qui porte le même prénom que lui, John. Un petit garçon que les journalistes français vont très vite surnommer John. Aussi, les Kennedy décident-ils de partir en Floride pour décompresser du côté de Palm Beach sans savoir qu'un terrible danger les menace. L'élection du jeune démocrate n'a pas fait que des heureux. En pleine guerre froide, certains le considèrent comme un dangereux communiste. C'est le cas du septuagénaire Richard Paul Pavlik. Cet ancien postier compte bien agir pour sauver une Amérique qu'il estime en danger de mort. Assis au volant de sa vieille Buick, il patiente devant la maison de villégiature des Kennedy, bien décidé à se faire sauter en jetant sa voiture bourrée d'explosifs contre celle du nouveau président. Le 11 décembre, vers 10h, le portail s'ouvre. Pavlik enclenche la première, mais s'arrête brutalement. JFK est au volant, mais il n'est pas seul. Jackie est à ses côtés et elle porte John Kennedy Jr. dans ses bras. Tuer sa femme passe encore, mais réduire un nourrisson en poussière, impossible. La rage au cœur, l'homme renonce pour ce jour-là. Sa chance est passée et il est finalement arrêté avant de pouvoir mener une nouvelle tentative. Sans le savoir, John Kennedy Jr. vient de sauver la vie de son père, ce qui n'empêchera pas la tragédie de s'inviter dans son existence, qui sera malheureusement, et comme celle de son père, trop brève. 36 ans après l'assassinat de JFK à Dallas, John Kennedy Jr. va mourir, et son épouse Caroline Bessette avec lui. Comme si la malédiction des Kennedy avait voulu tuer à nouveau, à une génération d'écart, en frappant Caroline et John, un couple qui fut à sa manière l'un des emblèmes de l'Amérique des années 80, aussi glamour que celui formé avant eux par JFK et Jackie Kennedy. Si la fin est tragique, l'enfance de John a, elle, tout d'un conte de fées, même si le petit garçon est trop jeune pour s'en rendre compte. Vivre à la Maison Blanche n'est pas tout à fait une existence commune, même lorsqu'on appartient à une famille aussi riche que le clan Kennedy et que votre père a été, pour ainsi dire, programmé pour exercer le pouvoir dès l'enfance. Car oui, le père de JFK, Joe Kennedy, richissime patriarche, a tout mis en œuvre pour que Jack, comme on le surnomme, et son frère Robert accèdent un jour aux plus hautes fonctions. Petit à petit, la Maison Blanche s'habitue à entendre des enfants rire dans les couloirs. Après des décennies d'occupation par des hommes qui avaient l'âge d'être grand-père, la demeure des présidents semble connaître une nouvelle jeunesse. Pour profiter de ses enfants, John et sa sœur aînée Caroline, JFK les laisse quelquefois pénétrer dans le sein des saints, ce fameux bureau ovale où le sort du monde se joue parfois. Et il laisse aussi les photographes immortaliser ces instants. À l'instar de cette photo devenue célèbre qui montre John en culotte courte et en équilibre précaire. Le petit garçon apprend tout juste à marcher et son père l'applaudit, assis sur une chaise à deux pas du fameux Resolute Desk, le bureau présidentiel qui est à l'origine un cadeau de la reine Victoria. Tout n'est pas innocent dans ce cliché publié par la presse, bien sûr. À la minute où il est né, et comme sa grande sœur, John est devenu un outil de communication politique comme un autre, le symbole d'une époque joyeuse, détendue, riche et florissante. L'enfant incarne l'héritier idéal d'un couple glamour en diable, le visage de l'Amérique des 60s tel qu'on la rêve. Le petit garçon, qui grandit littéralement sous l'œil des appareils photos, des flashs et des caméras, en gardera un rapport aux médias que sa future épouse Caroline n'acceptera et ne comprendra jamais. Caroline, à cette époque, n'est pas encore née. Elle ne voit le jour qu'en 1966 sur la côte Est du côté de New York, et son enfance ne ressemble pas et de loin à celle de l'enfant star dont elle tombera plus tard amoureuse. La petite fille ne grandit pas dans un milieu modeste pour autant. Non. Son père William est architecte, sa mère Anne dirige les écoles publiques de New York. Son seul point commun avec John, c'est qu'elle a une sœur aînée, ou plutôt deux, Lauren et Lisa, des jumelles. Sa famille fait partie de la gentry, mais on est très très loin de l'opulence des Kennedy, dont la fortune, d'ailleurs un peu louche, a pris des proportions inconcevables depuis les années 20. Pourtant, derrière le mitraillage des photographes, une autre réalité se cache. JFK est l'un des dirigeants les plus puissants du monde. Son agenda est surchargé, son temps est compté. John et sa sœur grandissent le plus souvent seuls, servis par une armada de gouvernantes, de domestiques, de nounous, mais sans beaucoup voir leurs parents. D'autant que le ménage Kennedy souffre aussi du tempérament notoirement volage du jeune président. Plombé par ses infidélités répétées, le couple bat parfois de l'aile, mais il tient bon. Contrairement à celui que forment les parents de Caroline Bessette, qui passera l'essentiel de son enfance avec sa mère au lendemain d'une séparation difficile. Mais chez les Kennedy, la souffrance a des racines bien plus profondes qu'un adultère ou un divorce. Avant de donner naissance à John et avant lui à sa sœur, le couple présidentiel a connu l'invraisemblable douleur de perdre un premier enfant, Arabella, morte à la naissance. Et 3 ans après celle de John, le couple traverse un autre drame en août 63 avec la mort de Patrick, un petit prématuré qui ne survit que 2 jours. La mort pèse déjà sur le clan Kennedy et le 22 novembre 1963, du côté de Dallas, la faucheuse frappe à nouveau. À cette date, la nouvelle campagne présidentielle s'annonce et John Fitzgerald Kennedy est en tournée avec Jackie dans la capitale du Texas pour y lever des fonds. Mais à 12h30 précise, JFK s'effondre dans sa limousine, touché par 2 fois par les balles de Lee Harvey Oswald, tirées depuis le 5e étage du dépôt de livres de la Dealey Plaza. À 12h52, la mort du président est officiellement constatée. À 13h30, l'Amérique apprend qu'elle vient de perdre son président. John, lui, vient de perdre son papa. Le 25 novembre, Jour des funérailles du président, c'est une image, encore une, qui saisit le monde entier paralysé par l'émotion. Celle de John Kennedy Jr. qui lâche un instant la main de sa mère pour adresser un salut militaire au cercueil de son père qui passe devant lui. Le petit garçon, qui a très exactement 3 ans ce jour-là, connaît le pire des anniversaires qu'un enfant puisse connaître. Dan Farrell, le photographe qui a pris le fameux cliché, résume d'une phrase ce qui ressort de la minuscule silhouette du garçonnet qui paraît seul au monde, au milieu de la foule qui l'entoure. C'est la chose la plus triste que j'ai vue de ma vie. Au lendemain de l'enterrement de JFK et de cette image qui a ému le monde entier, le conte de fées vire allègre. Sa désormais veuve, Jackie Kennedy, doit céder sa place à la Maison Blanche et à un couple habitué des lieux, le vice-président Lyndon B. Johnson, désormais à la tête des États-Unis, et de son épouse Claudia. L'ancienne First Lady se réfugie à New York avec ses enfants, Caroline et John, dans l'espoir de leur offrir une enfance un peu moins exposée. La vie semble reprendre son cours, mais la destinée s'acharne. Le 5 juin 1968, Robert Kennedy s'apprête à célébrer sa victoire aux primaires démocrates de Californie quand un militant de la cause palestinienne lui tire 2 balles dans la tête à bout portant. 5 ans après JFK, c'est son frère qui tombe sous les balles d'un assassin. Pour Jackie Kennedy, c'est trop de sang, trop de larmes, trop d'angoisse aussi. Elle a ces mots durs. « Je déteste ce pays, je méprise l'Amérique, je ne veux plus que mes enfants vivent ici. S'ils tuent les Kennedy, mes enfants sont les premières cibles. Je veux quitter ce pays. » Quelques mois plus tard, celle dont tout le monde pensait qu'elle finirait son existence dans le culte de son mari mort se remarie avec un armateur grec, Aristote Onassis. Jackie, désormais Onassis, s'installe en Grèce un temps avant de regagner finalement New York et le pays qu'elle avait fini par mépriser quelques années plus tard avec ses enfants. En 1980, l'année de ses 20 ans, John Kennedy n'est plus le petit garçon dont le salut a fait pleurer l'Amérique. C'est un athlète au corps dessiné par la pratique du kayak et du frisbee, un risque tout dingue de sport qui dépasse le 1,90 m pour 90 kg de muscles et de testostérone. John est magnifique, magnétique, célèbre et riche. Pour citer notre invitée Stéphanie Desor, qui raconte son destin dans son livre, il n'est pas beau, il est pire. D'ailleurs, les filles tombent comme des mouches et comme son père avant lui, John Kennedy ne se prive pas de les attraper au vol. Sa future épouse, Caroline Bessette, lui donne la réplique avec un léger décalage puisque la jeune fille n'a encore que 14 ans en 1980. Mais son port de tête et son élégance altière font rapidement des ravages dans les années qui suivent, comme son sourire immense et son regard bleu glacier semblant venu d'un autre monde. À peu près à l'époque où John boucle sa thèse en droit, Caroline commence ses études à la Boston University. Avec son physique de mannequin, elle jouit d'un charme tout à la fois froid et incandescent qui jette les hommes à ses genoux. Caroline n'a que l'embarras du choix. Et son regard capte celui de John Cullen, qui sera bientôt l'une des figures de la LNH, la Ligue professionnelle de hockey. Mais les liaisons dangereuses ne sont jamais loin. Caroline trompe son amant avec l'un de ses coéquipiers. La gentry n'apprécie pas, on jase, et la réputation de Caroline se fait sulfureuse, ce qui lui vaut les remontrances de sa mère qui serre les cordons de la bourse. Caroline doit travailler et elle s'en tire à merveille. Après avoir tenté le mannequinat, elle se fait engager comme vendeuse pour le magasin Calvin Klein de Chestnut Hill à Newton dans le Massachusetts. Sa grâce, son assurance et son style font le reste. Et il ne faut pas très longtemps pour gravir les échelons à vue d'œil, à Boston puis à New York, où elle dirige bien vite la publicité du magasin le plus emblématique de la marque, celui qui accueille des stars du petit écran comme Diane Sawyer ou des actrices comme Annette Bening. Et en parlant de stars, John Kennedy, de son côté, ne perd pas de temps non plus. Sa fortune, sa notoriété, son nom et son physique lui permettent de mener une existence qui pourrait paraître superficielle. Son clan tente régulièrement de le ramener à la politique, mais John se contente du service minimum. Un gala de charité par-ci, une montée sur scène par-là pour soutenir l'un de ces innombrables candidats démocrates que le clan Kennedy produit à des rythmes industriels, et c'est à peu près tout. Quand il ne travaille pas pour le bureau du procureur de New York, Kennedy Jr. se promène de tapis rouge et de restaurant chic en club à la mode, toujours en bonne compagnie. Cindy Crawford lui tombe dans les bras, Madonna aussi, mais celle qui est alors l'épouse de Sean Penn a le malheur de ne pas plaire à Jackie Kennedy et l'histoire tourne en eau de boudin. Qu'à cela ne tienne, John se console dans les bras d'une immense blonde, ce n'est pas Caroline, pas encore, c'est Daryl Hannah, la réplicante de Blade Runner et la sirène de Splash. D'autres noms s'affichent régulièrement à la une des tabloïds, dont ceux de Grace Jones, de Julia Roberts et de Sarah Jessica Parker, la future Carrie Bradshaw de Sex and the City. C'est sans doute elle qui résume le mieux ce qui va avec le fait de porter le nom de Kennedy. Après sa rupture avec John, elle déclare que sortir avec lui revient à sortir avec un homme qui appartient au domaine public. En mai 1994, sa mère, Jackie Kennedy, meurt à l'âge de 64 ans. Un an plus tard, son fils en a lui 35, quand, en train de lacer ses baskets devant chez lui, il croise une blonde incandescente dont le regard polaire le liquéfie sur place. « Who that girl ? Qui est cette fille ?» demande John à la cantonade. « Cette fille, vous l'avez compris, c'est Caroline Bessette. » Et le coup de foudre qui suit marque le début de l'une des histoires d'amour les plus météoriques et les plus tragiques aussi des années 90. Lorsqu'il rencontre Caroline en 1995, le trentenaire vient de lancer George, un mensuel qui compte bien dépoussiérer la presse magazine en mélangeant la mode, le people et la politique. Les magazines John et Caroline en font aussi la couverture, souvent malgré eux. Le début de leur histoire attire les paparazzi comme la confiture attire les mouches. Lorsqu'on les surprend en train de se baigner en amoureux sur une plage de Nouvelle-Angleterre, le monde entier se pose la même question que John, qui est cette fille ? Ou pour citer le toujours très élégant Boston Globe, qui est la fille en string, cette fille qui vient de mettre à genoux le plus beau parti de l'Amérique. Chacun de leur côté, les deux amants crèvent déjà l'écran. Ensemble, le couple est le cliché parfait dans la catégorie « rich, famous and beautiful », riche, beau et célèbre. Mais la sœur aînée de John, l'autre, Caroline, fait sans doute partie de ceux qui voient déjà se dessiner les premières fissures d'un couple sous tension. Les deux Carolines ne s'apprécient guère et passeront les années qui suivent à se regarder en chien de faïence. Ce qui surprend le plus le clan Kennedy, c'est que tout va très vite. La rencontre de John et de Caroline date donc du début de l'année 95. En avril, Caroline emménage dans le loft de John au cœur de Manhattan. Le 4 juillet, John demande Caroline Bessette en mariage. Caroline le sait, intégrer le clan Kennedy a un prix. La jeune femme n'a jamais craint la notoriété, mais ce qui l'attend se classe au niveau supérieur. Le couple ne peut pas faire un pas dehors sans être suivi. La frénésie qui les entoure n'a sans doute qu'un équivalent dans le monde, en Grande-Bretagne, celle que subit Lady Diana Spencer, la princesse de Galles. Tout le monde n'est pas armé pour supporter une pression pareille et Caroline, bientôt Kennedy, en souffre assez pour chercher des compensations ailleurs. Son insouciance perdue, elle semble la chercher dans la drogue et l'alcool, un régime qui ne calme pas sa jalousie récurrente. Le plus beau cadeau que John puisse faire à Caroline dans ces conditions, c'est un mariage secret et discret. La tâche relève, pour ainsi dire, de l'impossible. Et pourtant, l'argent peut tout, y compris permettre d'échapper quelques heures à la furie médiatique qui entoure le fils de JFK. Dans la biographie qu'elle consacre au couple, Stéphanie Desor relève que l'organisation du mariage vire à l'opération militaire. L'avocat de John fait signer des accords de confidentialité à toutes les personnes concernées. Traiteurs, chauffeurs, capitaines de ferry, employés de l'hôtel, chefs de la sécurité, tous sont tenus au secret. Ils sont mobilisés mais ignorent pour qui et pourquoi. Le nom de code de l'opération est D-Day. La date est inconnue, le lieu une île mystérieuse dont on protégera les plages et les marinas. Et ça marche. Le soir du 21 septembre 1996, aucun journaliste indésirable n'est de la noce qui se déroule sur l'île isolée de Cumberland en Géorgie à la lueur des bougies dans une minuscule chapelle en bois. Cela croit, la cérémonie commence avec du retard pour la bonne raison que Caroline a eu un peu de mal à passer sa robe de mariée, mais l'attente en valait la peine. La mariée est à couper le souffle. Quelle robe ! Si on en parle encore aujourd'hui, c'est pas par hasard. Elle a été dessinée par un créateur de Cerruti encore peu connu, Narciso Rodriguez. Le jeune homme s'est surpassé avec cette longue robe moulante en crêpe de soie blanc-perle d'une valeur de 48 000 dollars tout de même, mais c'est bien connu, quand on aime, on ne compte pas. Si le mariage est splendide, les années suivantes sont plus difficiles. Pour le business déjà, le magazine George voit ses ventes décliner, John a beau se battre, son journal bat de l'aile au moment où son couple traverse une série de crises profondes. Kennedy Jr. a du mal à supporter la jalousie de son épouse, qui lutte par ailleurs contre son addiction à la cocaïne. Caroline, elle, se plaint régulièrement de ne pas pouvoir faire un pas dehors, sans être suivis par une nuée de photographes qui, depuis le mariage, les ont vite retrouvés. Pour évacuer la pression, John trouve, lui, refuge dans une activité qui l'envoie aussi en l'air, mais d'une bien plus jolie manière, l'aviation. Une passion qu'il entretient en obtenant sa licence de pilote en 1998. À 39 ans, ce n'est pas l'activité la plus risquée que John a pratiquée, mais c'est pourtant celle qui va se solder par un drame. Le soir du 16 juillet 1999, John Kennedy décolle du New Jersey pour se rendre au mariage de sa cousine Rory dans le Massachusetts. Le vol qui survole l'Atlantique ne doit durer qu'une heure et personne ne s'inquiète de voir le petit Piper Saratoga décoller à la tombée de la nuit avec John aux commandes, accompagné de Caroline et de sa sœur Lorraine Bessett. Mais la brume désoriente John, qui finit par s'égarer avant de perdre le contrôle de l'appareil. Vers 21h40, le Piper s'écrase dans l'océan, devenu aussi dur que la pierre, au terme d'une chute vertigineuse d'une vingtaine de secondes. À cette vitesse, John, Caroline et Lorraine meurent instantanément. À terre, il faudra plusieurs heures pour qu'on accepte l'inévitable et plusieurs jours avant que l'épave ne soit découverte. Ce que toute l'Amérique redoutait est arrivé. Le clan Kennedy vient de vivre une nouvelle tragédie qui réveille les rumeurs qui courent depuis si longtemps sur la dynastie maudite. Il faut bien avouer que les tenants d'une malédiction qui pèserait sur la famille Kennedy ont toujours eu du grain à moudre. La mort de John et de Caroline en 1999 à 39 et 33 ans n'est jamais qu'un épisode de plus au milieu d'une longue série de drames et de scandales qui s'étirent sur plusieurs décennies. À l'assassinat de JFK et de son frère Robert, il faut ajouter le triste destin d'une des sœurs Kennedy, Rosemary, victime à 23 ans d'une lobotomie qui l'a laissée handicapée mentale pour le restant de ses jours. Et ce n'est pas terminé. David Kennedy, l'un des 11 fils de Robert, est mort d'une overdose de cocaïne en 1984. Et plus récemment, sa petite cousine, Saoirse, a été tuée par la drogue en 2019. Maeve Kennedy, une petite nièce de JFK, s'est-elle noyée en 2020 par accident avec son fils de 8 ans dans la baie de Chesapeake. Cette triste liste fait que le nom des Kennedy n'a jamais disparu des radars aux États-Unis. Et la meilleure preuve en est que John Kennedy Jr. peut se vanter d'avoir rejoint la longue liste de ces célébrités que certains croient toujours vivantes, quelque part avec Elvis Presley et Marilyn Monroe. Voici 3 ans, une étrange histoire est venue témoigner de cette fascination intacte. Le 2 novembre 2021, plusieurs centaines de personnes se sont réunies à Dallas, à l'endroit précis où JFK avait trouvé la mort en 1963. Tous en étaient convaincus. À 12h29, soit l'heure exacte du premier tir, John Kennedy ferait soudain son apparition, 22 ans après sa disparition, au large de la côte est américaine. Bon, visiblement, ils l'attendent encore. Mais aussi étrange que la théorie puisse paraître, elle n'est ni la seule ni la première. Le 4 juillet 2020 déjà, jour de la fête nationale aux États-Unis, la rumeur avait couru que John était sorti de sa tombe pour arpenter les sommets du mont Rushmore. D'autres bruits, plus étonnants encore, avaient couru. En s'appuyant sur quelques photographies, certains avaient même affirmé que l'un des gardes du corps de Donald Trump n'était autre que John Kennedy Jr., lui-même, mais le crâne rasé. Évidemment, personne n'est apparu par miracle et les tenants de cette curieuse prophétie en sont restés pour leurs frais. John Kennedy, dont le corps a été retrouvé, autopsié, est bel et bien mort et son épouse Caroline aussi. Sa sœur Caroline Kennedy également reste bien aujourd'hui le dernier enfant vivant de JFK et de Jackie Kennedy. Mais comme toutes les théories du complot, même les plus improbables, celle-ci en dit long sur la puissance d'un nom à jamais inscrit dans la mythologie de l'Amérique contemporaine. Et Caroline et John, l'autre couple Kennedy, malgré leur court destin, n'y sont clairement pas pour rien.
Europe 1, historiquement vôtre.
Stéphanie Desor, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Peut-on faire destin plus tragiquement romanesque que celui de John Kennedy et de son épouse Caroline Bessett?
Non, c'est incroyable, mais c'est quelque chose. Vous voyez, je connais l'histoire, je l'ai écrite, j'ai fait des recherches. Vous la lisez, mais on est ému aux larmes parce que en fait, ces gens-là, ils avaient tout, et on a mis tellement d'attentes derrière eux. Alors, vous évoquez des légendes, est-ce qu'il s'est sorti de sa tombe ou je ne sais quoi, ce qui prouve tout ce qu'on a mis en eux. Enfin, je veux dire, John, enfin, nous, on l'appelait John, c'était l'enfant chéri de l'Amérique. C'était l'enfant du roi, l'enfant de celui que l'on a tué de façon dramatique, l'enfant de Jackie, la faiseuse de légende. Voilà. Et puis Caroline, celle qui ne ressemble à personne, mais qui incarne le charme avec mêlé d'arrogance, mêlé d'un chic totalement fou. Ils ont une histoire d'amour folle. Cette histoire, évidemment, n'est pas simple, parce qu'il y a d'autres femmes.
Elle est même destructrice.
Ben, elle est destructrice, oui. Alors, ils n'auraient pas été qui ils étaient. Est-ce qu'ils se seraient détruits? Je ne sais pas. Caroline Bessette a une personnalité très, très particulière. C'est une femme qui est née... ce qui a énormément souffert du manque de père. Vous me direz John aussi, mais John ne s'est pas construit sur le manque de père. Il a essayé de devenir quelqu'un. Elle a passé son temps, Caroline Bessette, à détester les hommes et à vouloir se jouer d'eux. Elle avait un pouvoir sur eux, elle en avait tout à fait conscience, et depuis son plus jeune âge, elle les manipule. Et donc, la relation n'est pas égale, et quand ils se rencontrent, ils se reconnaissent, ils s'aiment, ils s'adorent, mais la manipulation de Caroline, plus les journalistes qui ne les lâcheront pas, et là, elle a fait une grosse faute, c'est qu'elle ne joue pas avec les journalistes comme elle s'est jouée avec les hommes, et ça va les perdre.
Stéphanie Desor, une question qui intéresse la romancière que vous êtes, c'est celle de la malédiction qui frapperait le clan Kennedy. En exergue de votre nouveau roman, Caroline et John, qui paraît chez Albin Michel, vous avez choisi de retranscrire les mots de Bobby Kennedy, « Quelqu'un là-haut ne nous aime pas ». Au sein de la famille Kennedy, du clan, on croyait cette malédiction ?
Je ne sais pas, mais depuis le début, les choses s'enchaînent de façon dramatique. Et si vous voulez, moi, c'est ce que je dis dès la première phrase de mon livre, je ne sais plus, enfin, à l'origine de tout destin, il y a une faute. Et il y a une faute. Alors, Joe Kennedy a eu des enfants qui ont tous terminé plus ou moins de façon dramatique. Il y a quelque chose, oui, moi je crois à la malédiction. Alors après, on peut jouer avec les mots, et voilà. Mais cette famille Kennedy, ce sont quand même les rois de l'Amérique, c'est la famille roi. L'Amérique n'a pas de famille royale, ni rien du tout. Elle s'en est inventée une. Vous les retrouvez tous, n'oubliez pas. Comment on appelait la Maison Blanche, c'était Camelot. C'est le mythe du roi Arthur qui revient. Après, il y a Jackie qui réinvente sa légende. Dans votre texte, vous disiez, le jour de l'enterrement, le petit John fait le salut militaire le plus triste de l'histoire. C'est vrai, sauf que il ne le fait pas. On lui a appris. Hein. Pendant les deux jours précédant l'enterrement, sa mère, Jackie, a dit à la nourrice, apprenez-lui, quand le cercueil passe devant, il doit faire son salut militaire. Tout est fabriqué pour inscrire la légende.
John Kennedy se croyait immortel. C'est ce que vous dites dans le livre. C'est ce qui l'a tué aussi.
Il se croyait différent. Il pensait qu'il allait y échapper parce qu'il n'avait pas les mêmes attentes que ses oncles ou que son père. Eux, c'était des animaux politiques.
Oui, c'est le pouvoir qui les intéressait.
Absolument. Et donc, bon, ben, on sait ce qui arrive à John, à Bobby. On sait moins ce qui arrive à Ted, qui ne pourra pas prendre la suite à cause du scandale de Chappaquiddick. Et donc, tous les regards vont se tourner vers John. Sauf que lui, c'est pas du tout ce qu'il veut. Lui, en fait, il souhaite fonder une entreprise qui fabriquerait des kayaks, qui serait vraiment la Rolls-Royce du kayak. Il adore faire du kayak. Lui, il voulait quelque chose de très simple. Il n'avait pas du tout décidé de faire de la politique. Et en plus, entre nous, il était plutôt républicain que démocrate. Donc...
Mais le livre commence par une bénédiction, celle de la naissance de John Kennedy Jr. Puis peu à peu, on avance vers le blasphème qui entraînera la damnation. Ce sont les titres de vos chapitres. Vous écrivez que c'est le parjure qui engendre la malédiction. Mais quelles erreurs John a-t-il commises ?
Il a promis à sa mère, il a fait trois promesses à sa mère sur son lit de mort et il ne les a pas respectées. Elle lui a dit, Jackie avait pour compagnon un homme formidable, exceptionnel, dont on parle peu, qui s'appelle Maurice Tempelsmann, qui était belge. Et elle lui a dit, je veux que Maurice reste là, qu'il te protège, que tu le vois. La première chose que fait John, c'est virer Maurice de l'appartement. Elle lui dit, je ne veux jamais, jamais que tu voles, que tu sois un pilote. La première chose que fait John, c'est de reprendre ses cours. Reste près de ta sœur, ne te fâche pas avec ta sœur, et il se fâchera avec sa sœur. Parce que Caroline Kennedy va naturellement détester Caroline Bessette. Mmh. Alors que Caroline Kennedy a respecté tout ce que lui a dit sa sœur. Caroline Kennedy va épouser un homme qui va la protéger. Un homme simple, un petit écrivain, etc. Aujourd'hui, elle est toujours mariée avec lui. Mmh. On ne sait rien sur Caroline Kennedy, si ce n'est qu'elle suit un destin, qu'elle est ambassadeur aujourd'hui en Australie avec son beau mariage et ses 3 enfants. John, lui, il a rompu toutes les promesses. Mmh.
Le 21 septembre 1996, John épouse Caroline Bessette et vous les comparez à Roméo et Juliette, les amants maudits.
Oui, parce que Roméo et Juliette, il y a une suite de manquements, si vous voulez. Alors effectivement, ce sont deux familles qui se détestent, etc. Mais il y a une suite de manquements. Juliette va boire la potion donnée par frère Laurent. On doit prévenir Roméo, mais je ne sais plus qui arrive en retard. Et Roméo ne saura jamais. Et quand il arrive devant Juliette endormie, il croit qu'elle est morte. Il y a une suite de manquements qui fait qu'ils ont un destin tragique. Dans tout ce qui va conduire à l'accident d'avion, il y a une suite de manquements. Il y a des embouteillages. Caroline se fait une manucure qui dure des heures. Tout le monde prévient John et lui dit surtout ne prends pas l'avion. Il prend quand même son avion. Il y a une météo épouvantable. Enfin, tout ce qu'il ne faut pas faire, il va le faire.
Un enchaînement tragique.
Enchaînement fatal. Mmh.
Mmh. Stéphanie Desordes, John Kennedy Jr., le fils du président assassiné en 1963, c'était l'enfant chéri de l'Amérique. Qu'est-ce qu'il représentait pour les Américains? Qu'est-ce qu'on attendait de lui? C'était comme le petit prince de l'Amérique?
Oui, alors les Américains ne savaient pas très bien, ils l'ont vu naître. Ils ont vu ce salut militaire. Ensuite, on enlève cet enfant à l'Amérique parce que Jackie l'emmène en Grèce. Mais naturellement, il revient et l'Amérique le voit grandir et peu à peu, on le voit se muer en homme magnifique qui va jouer avec les journalistes. Et il a un rapport très amical avec les journalistes. Alors, il va poser en sortant. Alors, il est très, très musclé, il est très sportif, il pose torse nu, etc. Sa mère s'arrache les cheveux. Mais les journalistes s'amusent, les Américains l'adorent, et tout paraît très simple. Alors, qu'est-ce que l'Amérique attend de lui? L'Amérique attend un destin politique, c'est évident. Y a une légende des Kennedy. Les Kennedy sont des animaux politiques. L'Amérique ne rêve que d'une chose, c'est de voir accéder ce fils de roi au trône, avec une femme qui lui conviendrait. Et Jackie attend cela. Et Ted Kennedy, qui attend cela aussi. Il est l'homme, il a le charisme. En plus, quand il prend la parole à des conventions démocrates, très souvent, et si vous voulez, alors c'est incroyable, parce qu'il sait parler en public, il sait plaisanter avec le public, et la salle est inondée de son charisme. Donc oui, on attend un destin national.
Dans votre livre, et j'y reviens, il y a une femme que vous qualifiez d'icône, c'est Jackie Kennedy. Elle a été, il est vrai, une icône d'abord de la mode, scrutée pour ses tenues. D'ailleurs, sa belle-fille, Caroline Bessette, avait aussi la mode dans le sang. Elles avaient toutes les deux cette proximité, même si elles ne se sont pas vraiment connues, mais le sens du style.
Oui, alors ce qui est très drôle, c'est qu'effectivement, ce sont deux icônes de mode qui n'ont rien à voir. Jackie, ça je le dis dans mon livre Jackie Ellie, Jackie, avec pas grand-chose, elle a fait quelque chose de dingue. Elle avait des épaules trop grandes, elle a inventé les petites robes à manches courtes, elle a inventé le pillbox, le petit chapeau, elle chaussait du 43, ça ne se voyait pas, et tout d'un coup, elle est devenue une icône de mode. Et puis en plus, elle a, bon, sa légende, elle l'a fabriquée. Souvenez-vous de l'histoire du tailleur, rose, teinté de sang, et surtout, on garde ce tailleur pour parler à tout le monde. Donc, il y a son style, alors elle est bourrée de robes Valentino, etc. Elle a un style de dingue, quand elle vient en France, elle est habillée par Givenchy, c'est formidable. Caroline Bessette, c'est tout autre chose. Caroline Bessette, on dirait qu'elle n'a pas fait exprès. On dirait qu'elle est née avec ça. Alors que Jackie l'a inventé, fabriqué. Caroline Bessette, elle a deux jeunes années avec des cheveux plus noirs, des yeux trop maquillés, etc. Mais soudain, elle trouve son style. Soudain, elle trouve cette pâleur, ce chic, ces teintes nude, ces coupes très droites. Et ce qui est complètement fou, c'est qu'aujourd'hui, 25 ans après sa mort, ce style perdure et elle est toujours une icône. C'est le chic à l'état pur. Et il y a une espèce d'éternité dans le style de Caroline Bessette. C'est en cela que je vous dis, elle est olympienne.
Quand vous parlez de l'autre couple Kennedy, c'est vrai, John, Caroline Bessette incarnait le couple glamour, lui était le plus beau des hommes, elle l'a mieux habillé des femmes, ils sont photographiés dès qu'ils sortent. Il suffit de taper leur nom sur un moteur de recherche pour trouver des dizaines de clichés d'eux. Vous êtes inspiré de toutes ces photos pour travailler vos personnages et écrire les scènes, parce que c'est comme
oui,
un film.
Oui, alors absolument. Notamment, si vous voulez, il y a une photo du mariage. Et cette photo du mariage, c'est extraordinaire. D'abord, on voit l'amour. Alors lui, il l'aimait comme un fou, ça c'était sûr. Hein. Mais elle, on voit cette photo, et oui, elle aime l'homme qu'elle est en train d'épouser. Et donc, oui, je m'en suis inspirée. Puis il n'y a pas que des photos, il y a aussi, et c'est là où travailler sur des avoir pour héros de romans des personnages de notre époque, c'est formidable, parce qu'il y a des vidéos. Et les vidéos, vous avez leur voix, vous avez leur mouvement. Il y a notamment des vidéos où ils se disputent. Et là, vous les ressentez vraiment. Pour un auteur, c'est extraordinaire. Extraordinaire.
Alors, vous l'avez souligné, Stéphanie Desor, il n'avait pas le même rapport aux médias. John Kennedy était né sous l'œil des photographes et était ami avec les journalistes. Caroline Bessette, elle, les craignait. Et pour autant, elle était une icône de la mode. Elle aurait pu les apprivoiser.
Alors, voilà, ça, c'est une des grandes questions. Je me suis toujours demandé, elle aurait pu les apprivoiser. C'est une manipulatrice. Elle aurait pu. Elle ne l'a pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Tout commence avec le retour du voyage de noces. Quand ils reviennent de voyage, jusqu'au voyage de noces, ça va. Quand ils en reviennent, tous les photographes sont là et tout d'un coup, elle devient une bête traquée. Et donc ensuite, ça va augmenter. Il va y avoir quelque chose d'horrible. Ça va être la mort de Lady Diana. On sait ce que les photographes ont fait à Lady Diana. Caroline croise Lady Diana aux funérailles de Gianni Versace. Elle voit cette foule de photographes. Ça la terrifie. Et ensuite, c'est la mort de Diana, c'est les photographes, c'est le tunnel de l'Alma, etc., etc. Et elle se dit, la prochaine, c'est moi. Et donc, elle ne veut plus sortir de chez elle. Et donc, elle s'enferme avec ses copains stylistes, et voilà. Et les rideaux sont fermés, et là, c'est la drogue, l'alcool, voilà. Alors que pendant ce temps-là, John travaille. John, il a un magazine à sauver, il se bat pour trouver des investisseurs. Caroline, elle ne fait plus rien. Elle a abandonné son job, elle est femme d'eux, elle se perd et elle n'ose plus sortir de chez elle.
Stéphanie, le 16 juillet 1999, il y a donc ce tragique accident d'avion qui a coûté la vie à John et Caroline Bessette. Quelle fin alternative la romancière que vous êtes aurait imaginée pour eux? Vous pensez que leur couple aurait tenu si la mort ne les avait pas fauchés en plein vol?
Alors, pour que le couple tienne, il aurait fallu qu'il trouve une autre orientation professionnelle. Parce que, ainsi que je viens de vous le dire, elle ne travaillait pas. Ce que Ted Kennedy a dit à John, si tu te lances en politique, vous serez protégé. On en fera une première dame. Et donc, je ne sais pas, personne ne sait. Mais effectivement, s'il avait suivi les conseils de son oncle, s'il avait fait ce que sa mère souhaitait, donc se lancer en prendre une investiture démocrate, même s'il n'en était pas capable, il y aurait eu derrière une équipe. Et Caroline aurait peut-être été conditionnée, elle aurait peut-être eu ce que Jackie a ressenti. Vous parliez de la vie conjugale de Jackie et JFK. Bon, Jackie, elle s'est tenue à sa couronne. Elle s'y est tenue. Peut-être que Caroline aurait trouvé un sens dans cette couronne. Je parle vraiment de couronne parce que c'est la famille royale de l'Amérique.
Donc, sauf que les temps avaient changé et Caroline n'était pas Jackie.
Et Caroline n'était pas Jackie et elle n'avait pas les assiettes. Alors, Jackie croyait énormément en son mari. Jackie croyait en JFK. Je ne sais pas si Caroline Bessette croyait vraiment en John. Je ne sais pas.
Merci Stéphanie Desordes de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Caroline et John, l'autre couple Kennedy. Je rappelle que Caroline et John, le livre que vous leur consacrez, est paru aux éditions Albin Michel.
Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.